RFI.
C'est pas du vent. Le magazine de l'environnement sur RFI.
The best things in life are free. But you can give them to the birds and bees. I want money.
Que se passe-t-il derrière votre compte en banque? Si vous pensez que votre argent vous appartient et reste tranquillement sur votre compte en attendant que vous vous serviez, tendez bien l'oreille, car dans les faits, une fois déposé à la banque, il nous échappe complètement. Il peut même servir à financer des projets avec lesquels nous ne sommes pas d'accord, mais personne ne nous demande notre avis. Il existe pourtant une solution, la banque éthique. Elles émergent et ont beaucoup de succès dans de nombreux pays. Pauline Mocor a enquêté.
Ok, donc j'ai besoin d'argent, je vais retirer de l'argent à la banque. Alors vous m'accompagnez, est-ce que vous pouvez vous présenter ?
Alors je m'appelle Lucie Pinson, je travaille aux Amis de la Terre en tant que chargée de campagne sur les banques privées. Nous sommes une association de justice sociale et environnementale. On fait partie de la plus grande fédération environnementale dans le monde, présente dans plus de 70 pays, avec une vingtaine de groupes locaux en France.
Donc, je vais retirer de l'argent, guichet automatique. Retrait. Donc je viens de retirer des euros. Est-ce que vous pouvez nous expliquer par où ils sont passés ces euros avant d'arriver dans la machine et dans mon porte-monnaie?
Alors ces euros-là, ils ont sûrement fait un long voyage, puisque lorsque nous confions nos sous auprès de notre banque, ils sont stockés avec l'ensemble des sous des clients de la banque et de leurs actionnaires. Et ils vont être investis, ils vont servir à financer l'économie locale, donc les projets des particuliers, des collectivités locales, des PMI et des PME. Mais ça, c'est qu'une toute petite partie de leur utilité, puisque les banques vont surtout s'en servir pour aller financer les multinationales et pour investir sur les marchés financiers. Donc, lorsque nous confions 100 euros à notre banque, ces 100 euros-là, la banque va avoir une obligation d'en garder un peu, au cas où il y a un choc économique. Donc, c'est ce qu'on appelle le fonds de réserve de la banque, qui est inférieur à 10%, mais donc ce qui laisse à la banque environ au moins 90 euros pour aller financer d'autres projets. Il va surtout à des multinationales, donc à Total, à GDF Suez, à EDF... Alors, directement ou indirectement, les banques françaises financent des secteurs de l'économie qui ont un lourd impact sur l'environnement, notamment le secteur des énergies fossiles, avec les banques françaises qui ont financé pour plus de 30 milliards d'euros le secteur du charbon, donc l'énergie fossile la plus émettrice de CO2 entre 2005 et avril 2014. Donc on a BNP Paribas, le Crédit Agricole et la Société Générale qui ont financé pour près de 30 milliards d'euros des projets de charbon, que ce soit des centrales à charbon ou des mines de charbon un peu partout dans le monde.
L'environnement est en danger. La finance responsable est donc devenue notre priorité absolue. Votre banque. Ce n'est pas qu'un établissement bancaire. Nous prenons soin de votre épargne, mais avant tout, comme vous, nous sommes des citoyens du monde.
Et là, c'est l'écran avec le logo. Vous pourrez le mettre sur fond vert, Thierry.
Ça fait écolo, le vert. C'est good, c'est dans la boîte. Thierry, on enchaîne. On a la signature pour les mines de charbon d'Afrique du Sud. Allez hop, on se dépêche.
Alors moi, ce que je comprends pas, c'est qu'au dernier rendez-vous avec mon banquier, il m'a proposé de placer mon argent dans un livret de développement durable en m'expliquant que c'était bon pour la planète.
Alors, le livret développement durable, il y a 90% de l'argent qui est placé sur ce livret-là, qui est utilisé comme le reste de l'argent déposé sur les autres produits. Donc, en fait, des produits non durables.
Mais pourtant, les banques se positionnent de plus en plus sur cette dimension écolo-responsable, développement durable.
Alors les banques ont bien compris que être vert était un argument de vente auprès de leurs clients, et notamment cette année en vue de la conférence sur le climat qui se tiendra à Paris en décembre 2015. Donc les banques mettent tout en avant leur engagement au service de l'environnement, en faveur de la lutte contre le changement climatique. Cependant, on est à des années-lumière de leurs pratiques, puisque si le Crédit Agricole a pris des mesures en effet qui vont dans le bon sens, le Crédit Agricole demeure malgré tout un important financeur des énergies fossiles, du nucléaire, des agrocarburants, etc. et donc fait toujours partie du problème et non de la solution.
Au Crédit Agricole, le bon sens, c'est notre sixième sens.
Ce qui veut dire que l'argument écologique, l'argument responsable pour le climat, c'est de la communication, de la pub.
C'est de la communication, principalement, c'est un joli A5, A4, A3, placardé un peu partout, que ce soit dans leurs brochures, dans leurs agences, dans les métros.
C'est ça qu'on appelle greenwashing, éco-blanchiment de l'argent.
C'est ce qu'on peut appeler greenwashing, en effet. Une entreprise qui, sans changer radicalement son modèle économique et ses pratiques, se peint un petit peu de vert et va faire un tout petit peu plus en faveur des énergies renouvelables, en faveur des éco-prêts, etc., de manière à les mettre en avant pour attirer les clients.
Vous pouvez m'accorder un prêt à 21%?
Oui.
Et m'endetter pendant 25 ans?
Oui.
Vous me prenez vraiment pour un con ?
Oui.
Crédit Lyonnais, le pouvoir de dire oui.
Bonjour, je suis Claude Lippmann, j'ai 58 ans et je travaille en collectivité territoriale, en règle générale, dans le domaine financier. J'ai placé tout mon argent à la NEF et aussi au crédit coopératif, en me retirant de la banque postale et du crédit mutuel également. Je souhaitais être sûr de l'utilisation de mon argent. Or, maintes et maintes fois, on a vu que dans un certain nombre de banques, il y avait des placements à risque, des placements dans les îles Caïmans, des banques qui investissaient dans le nucléaire, des banques qui investissaient dans l'huile de palme, dans un certain nombre d'activités économiques qui ne me plaisaient pas. Et donc, pour m'assurer du circuit et de l'utilisation de cet argent à des fins écologiques et économiques pour le bienfait de l'homme, il n'y avait pas beaucoup de solutions. Et la meilleure, c'était la NEF, car on pouvait décider de l'utilisation de son argent pour l'énergie, pour des terres agricoles, pour du matériel agricole, etc.
Vous avez placé combien d'argent comme ça à la NEF ?
Un montant important, plusieurs centaines de milliers d'euros.
Mais comment se fait-il que tout cet argent, vous le placiez dans ce genre de projet et pas en bourse, par exemple, pour gagner plus ?
Mais surtout pas en bourse, surtout pas. J'ai hérité d'un portefeuille d'actions important. J'ai tout viré du crédit mutuel et j'ai placé à la NEF au crédit coopératif. Mon argent ne m'intéresse pas. Mon argent, c'est que ça soit des gens qui soient debout et qui puissent vivre de leur travail.
Est-ce que vous avez ces valeurs et vous pouvez vous permettre de placer votre argent qui va être moins fortement rémunéré à la NEF que dans une banque locale, justement parce que vous avez de l'argent? Est-ce que quelqu'un qui a moins d'argent, qui a juste ce qu'il faut pour vivre, a un intérêt à placer le peu d'argent qu'il a à la NEF?
Non seulement à placer le peu d'argent qu'il a, mais aussi à emprunter à la NEF. Pourquoi? Parce que c'est tout simplement l'activité économique réelle qui est privilégiée.
Oui, mais si j'ai peu d'argent, je vais peut-être avoir tendance à privilégier une banque où j'aurai plus d'intérêt.
C'est possible, oui. Ça dit, je comprends, et je suis bien placé pour le savoir aussi, que la NEF n'est pas complètement étranger à des gens qui cherchent aussi un peu de rendement financier, entre guillemets. Je prends l'exemple d'un des comptes à terme. On se pose toujours la question. Certains sont prêts à ne pas être rémunérés du tout. Moi, je fais partie de ceux-là, à 0%. Puis d'autres voudraient un peu, mais moins que peut-être dans les autres banques. En fait, qu'est-ce qu'on veut? C'est que, enfin, moi, c'est mon credo, mais je pense que c'est le credo de beaucoup, comme société active, c'est qu'on croit à la NEF, on croit à cette alternative économie, une banque éthique, et on pense que c'est autre chose que HSBC, Société Générale, ou même la Banque Postale.
Un banquier est un homme qui vous prête un parapluie quand il fait beau et qui vous le retire quand il pleut.
Bonjour, je m'appelle Alice Longuépée, j'ai 34 ans, je suis mariée et maman de deux enfants. J'habite dans le nord, à peu près à 20 km de Lille, et je travaille à la Nef en tant que banquière itinérante depuis maintenant 2 ans. Je sillonne le territoire du Nord-Pas-de-Calais et de la Picardie à la recherche d'emprunteurs, à la recherche de projets à financer. Tous les projets qui vont faire du bien à l'homme ou à la planète. On intervient principalement dans tous les projets écologiques, donc les énergies renouvelables, l'agriculture biologique, le développement durable, mais aussi les coopératives, les associations, quand il va y avoir de l'insertion, quand ça va aider les personnes âgées ou handicapées, la petite enfance. Enfin, vraiment, à partir du moment où c'est un projet qui porte des valeurs, on va pouvoir étudier la faisabilité. Alors là, c'est le livret des prêts que la Nef a accordé en 2014. Il y en a à peu près 250-300 sur tout le territoire.
Et donc alors, on vous contacte, enfin, vous rentrez en relation avec le porteur de projet. Et qu'est-ce qui se passe après ?
Il y a d'abord un entretien pour comprendre le projet, comprendre les valeurs du porteur de projet. On a des fois en face de nous des personnes qui ont des super projets, mais qui ne sont pas porteuses de ce projet, c'est-à-dire qui font du greenwashing, comme on peut appeler ça. C'est à nous de le détecter. Une entreprise qui fait déjà l'effort, qui montre la volonté d'avancer, de faire mieux pour l'environnement, d'être soucieuse de ça, d'avoir des projets en disant « je ne peux pas le faire aujourd'hui parce que je n'ai pas les moyens ou parce que c'est trop tôt », je le ferai demain. Déjà d'avoir cette motivation et cette envie, c'est déjà important pour nous. Et pendant ce rendez-vous, c'est toutes ces choses-là qu'on va détecter. Donc maintenant, je vais ouvrir le dossier pour analyser la partie risque. Et si l'avis est favorable, effectivement, nous pourrons donc prêter un peu de soi à cette entreprise qui, alors ça arrive aussi souvent, qui a déjà eu un accord pour la totalité par une banque traditionnelle, mais qui a envie de participer à l'aventure de la Nef, de devenir sociétaire. Quand on devient emprunteur de la Nef, on devient sociétaire de la Nef. Donc plutôt que de dire oui à une banque classique avec un taux en dessous de 2%, et ben ils ont envie de partager le financement avec la Nef à des conditions certes un petit peu moins avantageuses, mais...
Est-ce que le taux sera à combien ?
Il y a un point d'écart entre ce que la banque traditionnelle va proposer et ce que nous, on va faire. Donc, sur des petits montants, c'est pas en dessous de 100 000 euros, ce n'est pas significatif sur un prêt, mais c'est quand même un effort financier que les porteurs de projets font pour venir à la Nef.
Comme d'hab, je rentre direct dans le sujet, avant qu'on dévie. Le jeu auquel je suis sujet, la vente de co-dévie. Viens faire un tour dans ma banque, pêchons un compte d'épargne. Si ton compte chèque est en débit, t'attends même pas à ce compte d'épargne. C'est derrière les murs qu'on dépit, ma principale occupation. Si tu concrétises, j'espère que ta procuration, les contrats se concrétisent sous l'œil de la trieuse. Au guichet, je compte les 10. Ouais, j'ai le fils d'une mouette rieuse. Okay. C'est l'idéal pour toucher des euros avec tes doigts. Miss, tu vas tes doigts devant le nombre de zéros. T'es déshérité sans une assurance vie. Y'a personne à suivre dans ce monde, on sait jamais à qui on se fie. Toi, t'as pas peur de confier tes sous aux mains de garnement. Les fonds communs de placement sont peut-être la manne de l'armement. J'ai les larmes aux yeux de payer tant d'impôts. Alors je préfère attendre un peu dans un bureau et prendre un pot. Mon manager m'a toujours dit les vrais assure. Si t'as rendez-vous aujourd'hui, je te pique grave un livret assure. Je kiffe quand ça rack, alors je te saigne et trop je mens. Pour une baraque rouge, je te renseigne sur un plan et parle logement. Je touche pas les chèques que je vois, tout ça dans ma vie c'est nouveau. Quoi que je vise ou quoi que je fasse, à l'heure qu'il est, je sais ce que je vaux. On veut tous la thune, acheter des fringues et des autos. Mais tu pourrais bien te faire sauter si tu convoites la caisse auto. Je vais pas me plaindre ou prier le ciel. C'est pareil à la SGCO-LCL. Arrêtez d'avancer la tête baissée. D'avoir le moral pesant par la HSBC. À la BNP, tu peux pas dire que c'est le drame. Pareil que la thèse des primes à cause de la caisse d'épargne. T'es bloqué à la case départ et moi je rigole. Tu crois que tu brasses des barres au crédit agricole.
Bonjour, je m'appelle Philippe Pascal et je suis responsable de la délégation des particuliers de la Nef, donc qui est le service qui s'occupe de répondre à nos sociétaires et épargnants pour leurs besoins particuliers. J'ai quitté le système bancaire classique parce que je ne me retrouvais pas du tout en termes de conviction. J'avais l'impression d'être devenu plutôt un vendeur de produits qu'un conseiller. Et pour tout dire, je ne pensais jamais revenir dans le système bancaire parce que je ne trouvais pas forcément beaucoup de sens à mon métier. Donc j'étais plutôt en phase de reconversion. Et un jour, parfaitement par hasard, je me formais et j'ai une dame que je rencontre et qui me dit « Mais est-ce que tu connais la Nef ?» Je ne connaissais absolument pas. Le soir, je suis rentré chez moi, j'ai regardé la Nef. J'ai même eu un peu de mal à croire que ça pouvait exister, enfin en tout cas qu'on pouvait travailler avec l'argent, donc finalement ça c'est le métier de banquier, mais de cette façon-là. Enfin, pour moi qui avais une vision bancaire assez classique à l'époque, Les premiers mois à la nef, ça a plutôt été de me dire, il doit y avoir un loup caché quelque part, à un moment donné, le rideau va tomber, et puis je vais apprendre que finalement, en marketing, on est très bon, et qu'en fait, derrière, on n'incarne pas du tout ses valeurs. Et là, pour le coup, ça fait 5 ans que je suis à la nef, et bah, le rideau n'est pas tombé, et quand je parle de ce que je fais à d'anciens collègues qui sont encore en banque, ils ont quoi le raisonnement de banquier classique? Ils ont du mal à comprendre comment on peut nous confier de l'argent en demandant de la transparence et en acceptant de gagner un peu moins que dans leurs établissements. Et du coup, quand on compare un peu nos taux, ils me disent, mais moi, si je propose du 4%, vous proposez du 3,5% par exemple, mais le client va venir chez nous. Je lui dis, bah, écoute, moi, je peux prendre le pari que si la personne, elle souhaite vraiment savoir ce qui est fait de son argent et qu'on lui explique qu'on lui verse 2, 3% parce que derrière, on lui explique à quoi sert son argent et pourquoi finalement on lui sert cet intérêt-là. Il n'est pas tombé du ciel, cet intérêt. Ben, la personne, elle va venir vers nous parce que ben, on lui donne du sens quoi, à son argent et puis on lui sert, à mon sens, la juste rémunération. Proposer des taux mirobolants, il y a forcément quelque chose derrière. Quoi. Je crois pas que l'économie réelle puisse servir du 4% en termes de rémunération.
Pourquoi au début, vous aviez du mal à y croire?
Je crois que j'étais un peu formaté. Enfin, pour le coup, quand on vient du monde bancaire classique, j'avais des reporting de vente à faire régulièrement. Enfin, il y avait une espèce d'état d'esprit où le banquier, il est là pour gagner de l'argent. Je ne pensais pas qu'on pouvait travailler avec l'argent en se disant l'objectif pour l'établissement, pour la structure, c'est pas de générer un maximum de revenus, mais c'est vraiment être acteur de transformation en finançant des projets, d'arriver à l'équilibre et pour pouvoir faire en sorte que la coopérative soit pérenne, et de payer les salariés et de payer aussi les épargnants avec un encadrement des salaires. À la nef, on a une différence de rémunération entre le plus haut et le plus bas salaire qui est aujourd'hui de 4,9. Enfin, moi, c'est des choses que j'ai absolument jamais entendues en banque classique. Moi, nos directeurs, ils devaient gagner plusieurs centaines de milliers d'euros par an et ça choquait personne, c'était normal. Quoi. Enfin, je veux dire, il y a une réflexion de fond ici où je ne pensais pas que c'était possible dans le monde de la finance. Quoi.
Quelles autres différences vous avez pu observer entre les banques classiques dans lesquelles vous travailliez avant et celles-ci?
Donc, c'est le but finalement qui est assez différent de ce que j'ai vu auparavant. Auparavant, c'était j'avais mes objectifs commerciaux à tenir. Alors certes, je répondais aux besoins de mes clients, mais il fallait que je revende quand même quelques produits. Je me souviens, on avait un logiciel qui nous calculait le nombre de produits qu'on vendait par rendez-vous. Il fallait qu'on fasse un peu plus de 2 produits vendus par rendez-vous. Ça, c'est complètement aberrant. C'est pas du tout quelque chose que je vis aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai pas d'objectif en disant à chaque fois qu'on reçoit quelqu'un, qu'on lui conseille, il faut qu'on lui ait vendu des choses. Ben, c'est pas du tout l'objectif, quoi. Et d'ailleurs, on s'en rend bien compte. En fait, on a, nous, une progression de nos épargnants qui est assez incroyable, qui fait pâlir mes collègues en me disant « Mais comment vous réussissez à collecter autant de millions d'euros et comment vous arrivez à avoir une croissance qui était à 2 chiffres il y a quelques années ?» Alors que les banques classiques ont plutôt des difficultés à collecter de l'épargne, alors que nous, la nef, c'est plutôt l'inverse. On a plutôt beaucoup de personnes qui viennent vers nous pour nous confier de l'épargne. Quoi. Et du coup, j'y retrouve une vraie satisfaction. Et en tout cas, le petit blues du dimanche soir que j'avais auparavant, ça fait 5 ans, je ne l'ai pas. Quoi.
Des cours d'assises pour lui. On a dessiné des frontières et rangé la paix au vestiaire pour lui. On a façonné un mur entre les ventres creux et les gros ventres pour lui. La bonté n'est plus qu'une enclave, un fœtus, un futur esclave pour lui. Lui que l'on prie tous à genoux, à qui l'on offre tant de vie. Commandant au-dessus de nous les manettes de nos envies. Dieu le seul, le vrai, l'unique. Le fric.
Tout le monde reprend en cœur l'air du travail à contre-cœur pour lui. On se fait voleur puis tout pire en marchant de tous nos soupirs pour lui. Asservi, aveugle et muet devant ses misères créées pour lui. On se dégonfle, on s'accroupit en renonçant à l'utopie pour lui. Lui le magicien qui transforme les chefs d'État en marionnettes. Pour ses démocraties conformes à ses idées de proxène. Le Dieu le seul, le vrai, l'unique. Le fric.
En espérant qu'après ce reportage de Pauline Maucor réalisé par François Porcheron, vous aurez envie de reprendre le pouvoir sur votre argent. Restez avec nous juste après le flash d'info. Nous vous ferons découvrir 3 initiatives qui prouvent que nous sommes tous capables à notre niveau de changer le monde. À tout de suite.